Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Audrey Pulvar, candidate de la liste Île-de-France en commun aux élections régionales. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous.
Alors Audrey Pulvar, vous êtes à la tête d'une liste de rassemblement de gauche en Île-de-France. Vous voulez diriger la première région de France. Avant de parler de votre projet, une question d'actualité. Ce 1er mai, vous vous êtes recueilli devant le pont où un jeune homme, Brahim Bouram, a été jeté dans la Seine par des militants d'extrême droite il y a 26 ans. Et cet hommage intervient alors qu'à Marseille, le président d'un club nautique a envisagé une ratonnade. À Dole, un homme a foncé en voiture sur un père de famille. Il y a un climat qui vous inquiète aujourd'hui sur la question du racisme ?
Malheureusement, ce climat a toujours existé. Justement, ce qui est arrivé à Brahim Bouram il y a 26 ans. Le racisme, comme l'antisémitisme, je le disais il y a une semaine à propos de Sarah Halimi, et le racisme comme l'antisémitisme n'ont jamais disparu de notre pays. Et oui, évidemment qu'il y a en ce moment un climat particulièrement détestable. C'est toujours d'actualité. Sur ce sujet du racisme, de l'antisémitisme, des discriminations, le combat n'est jamais terminé. C'est comme sur la question du féminisme, de l'égalité des droits entre femmes et hommes. C'est comme sur les questions de droits des populations discriminées. Je préfère parler des discriminés que des minorités. Parce que vous savez, quand on ajoute les minorités, bout à bout, ça fait une majorité finalement. Eh bien, sur tous ces sujets-là, il ne faut jamais cesser de se battre. Nous avons tendance, ceux et celles d'entre nous qui sommes des humanistes, nous avons tendance à nous battre pour obtenir des droits pour tous et à considérer que quand ces droits sont obtenus, eh bien, on fait le pari de l'intelligence humaine, on fait le pari de l'autre, le pari de l'altérité, et on considère que on s'est battu, on a obtenu des droits, que ces droits sont constitutionnels et que donc à partir de ce moment-là, ça c'est réglé et on peut passer à autre chose. Sauf que le ça c'est réglé, c'est pas vrai, parce que les forces conservatrices, les forces de la haine, elles sont toujours à l'œuvre et elles sont toujours en activité pour défaire, pour détruire les droits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on est en 2021, on en est encore à se battre pour que les femmes aient un accès sans difficulté à l'IVG. On en est encore à se battre pour que des agressions comme celles dont vous parliez tout à l'heure, qui parfois conduisent à la mort pour les victimes, on est encore en train de se battre pour que ces agressions-là n'aient pas lieu.
Alors Audrey Pulvar, on va parler de votre projet pour la région. Aujourd'hui, une grande partie des Français se réjouit du déconfinement annoncé, mais il y a une partie de la population aussi qui vit dans l'inquiétude. La peur de perdre son emploi, son logement, sans parler des étudiants qui vivent dans la précarité alimentaire. La région pourra-t-elle apporter des solutions sur le long terme à ces personnes durement frappées par la crise ?
Ah, absolument. Vous savez, la région Île-de-France, c'est la deuxième région la plus riche d'Europe. C'est la première région la plus riche de France. Et pourtant, c'est la région où, dans notre pays, on constate les plus fortes inégalités, avec de réelles poches de misère. On ne parle même plus de précarité, mais de misère qui touche des centaines de milliers de Franciliens, et ça dans tous les départements, y compris les départements considérés comme riches, avec des classes populaires qui sont vraiment dans une situation de grande fragilité. Et la crise du Covid depuis un an, ou de la Covid depuis un an, a jeté finalement dans la pauvreté des personnes qui étaient déjà précaires et dans la précarité des personnes qui étaient déjà tout juste, qui étaient déjà fragilisées. Et que peut faire une région responsable et juste pour aider ces personnes ? D'abord, nous, ce que nous proposons pour les 100 à 150 000 jeunes franciliens, c'est-à-dire, on va dire, entre 18 et 25 ans, les plus précaires, ceux qui sont considérés comme sans formation, parfois sans attache, parce qu'ils ont quitté le domicile familial et sans aide possible, ce que nous proposons pour eux, c'est déjà une aide de 150 euros par mois qui sera versée à la fois par les départements et par la région, alors pas 150 fois 2, hein, mais 150 répartis entre les départements et la région, pour les, avant la Covid, on considérait que 100 000 jeunes de 18 à 25 ans étaient dans une situation d'extrême précarité. On peut s'attendre à ce que ce nombre soit plus élevé après la crise sanitaire. Donc, on se dit qu'on va réserver ce dispositif à entre 100 et 150 000 jeunes. Ensuite, au-delà de ces jeunes qui sont extrêmement précaires, il y a 1 500 000 jeunes en Ile-de-France qui sont dans des situations fragiles. Et c'est pour ça que nous voulons lancer le pass jeunes franciliennes et jeunes franciliens, qui permettra à chaque jeune au-delà de 18 ans de bénéficier de l'ensemble des aides auxquelles il ou elle a le droit, que ce soit des aides municipales, que ce soit des aides départementales, que ce soit des aides régionales, que ce soit des aides de l'État. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de non-recours. Il y a énormément de jeunes qui ont droit à des aides, y compris parfois des jeunes qui vivent chez leurs parents, hein, qui ont droit à des aides et qui n'y ont pas recours, soit parce qu'elles et ils ne savent pas qu'ils ont droit à ces aides, soit parce que c'est trop compliqué, remplir un dossier, aller chercher, trouver des documents, etc. Alors que ces aides, elles existent, elles sont là pour ces jeunes. La région va coordonner les différents services de l'État, des départements, des villes, qui prévoient des aides pour les jeunes, et faire en sorte que chaque jeune francilien, alors peut-être que pour celui qui est le moins en difficulté, ben, il aura droit à très peu d'aides dans le mois, mais celui qui est très en difficulté peut avoir droit à des aides qui, cumulées, vont presque jusqu'à un demi-SMIC. Et donc pour ces jeunes, ils auront la possibilité, grâce à un travail de coordination effectué par la région, de voir arriver jusqu'à eux les aides auxquelles ils et elles ont droit. Et puis après, tout l'effort que nous voulons porter sur l'éducation, sur les lycées, sur la formation. Les lycées, vous savez, c'est une des grandes responsabilités de la région. Or, aujourd'hui, un lycée francilien sur 10 est en sureffectif et un lycée francilien sur 3 est vétuste. Donc déjà, quand on parle des lycées, il y a la question la rénovation de l'existant et de la construction de nouveaux lycées. On considère que 20 000 places de lycées supplémentaires devaient ouvrir entre 2017 et 2027 au regard de l'évolution prévue de la population. Et aujourd'hui, on est à mi-chemin de cette décennie, eh bien, il y a à peine 5 000 places supplémentaires qui sont prévues, qui sont programmées. Donc on est très loin du compte et ce problème de sureffectif des lycées, il va demeurer. Et puis il y a la question de la vétusté dont je vous parlais. Il y a un certain nombre de chantiers qui ont été lancés et qui soit sont à l'arrêt, soit ont donné lieu à des livraisons de lycées avec des malfaçons, soit avec du provisoire qui dure, c'est-à-dire des systèmes qui sont censés durer quelques mois et qui finalement, pendant plusieurs années, défavorisent les élèves et les enseignants. Et puis il y a un certain nombre de lycées à construire et notamment, nous voulons créer des lycées agricoles parce qu'il manque des lycées agricoles en Ile-de-France. Donc, sur les lycées, à la fois, il y a la question du bâti. Donc, évidemment, nous nous plaçons dans une optique de rénovation énergétique du lycée, construction de lycées à partir des filières de bâti durable, c'est-à-dire avec des matériaux écologiquement responsables, des bâtiments qui seront capables de produire leur propre énergie, des lycées peut-être moins grands, plus à taille humaine. Et puis, il y a la question de la formation dans les lycées, améliorer la formation et notamment, je vous le disais, créer des lycées agricoles parce que l'Île-de-France, première région agricole de France, ça, très peu de gens le savent, est une région où l'on forme très peu les jeunes aux nouveaux métiers de l'agriculture et aux métiers de la transition écologique et solidaire. Et donc ça, nous voulons le mettre en place. Et puis, à la question de l'aide à la formation pour ceux qui ont dépassé le lycée ou qui sont sortis du circuit scolaire. Et ça, nous le ferons en relançant avec beaucoup de volontarisme, à la fois les emplois tremplin, que Valérie Pécresse a supprimé, et surtout le soutien aux missions locales. Aux missions locales d'insertion, aux missions locales de soutien aux jeunes, pour les aider à trouver leur voie, à porter un projet, et sortir de cette situation pour certains de grande exclusion de l'emploi. Et sur les questions pour les adultes maintenant, sur les questions d'emploi, parce que comme je disais, les gens ont peur de perdre leur emploi. D'abord, il y a tout le soutien que nous voulons apporter au secteur de l'économie sociale et solidaire, hein, qui est un secteur très pourvoyeur d'emploi et donc d'emploi inclusif, c'est-à-dire de l'emploi qui fait venir vers l'emploi des gens qui en sont très éloignés et de l'emploi non délocalisable. Donc, ça, c'est une première partie de la réponse. L'autre point, c'est que, vous savez, un des grands rôles de la région, c'est l'aide économique, l'aide aux entreprises. Et nous voulons conditionner les aides qui seront versées aux entreprises à la fois à des critères environnementaux, ça veut dire que les aides seront décidées et seront apportées aux entreprises en fonction des efforts qu'elles produisent et qu'elles entendent mettre en place pour réduire leur empreinte sur l'environnement. Et puis, nous allons aussi conditionner les aides à des critères sociaux, c'est-à-dire l'engagement pour les entreprises à poursuivre la formation professionnelle de leurs collaboratrices et collaborateurs, à améliorer et à faire perdurer et améliorer le dialogue social, très important, et puis à préserver l'emploi de façon prioritaire, pour éviter notamment des situations comme ce qui se passe avec l'usine Renault de Flins, où une vraie compétence, un vrai savoir-faire dans le véhicule électrique ou dans la transformation des véhicules thermiques en véhicules électriques va partir, être délocalisé ailleurs qu'en France, et des emplois détruits alors que le marché existe et que la commande est là. À mon sens, il y a un moyen pour que la région pèse sur ce genre de décision et pèse en faveur des salariés.
Audrey Pulvar, dès le début de votre entrée en campagne, vous avez proposé une mesure forte, la gratuité des transports en commun. Vos concurrents disent que c'est impossible compte tenu des finances de la région. Quel sera le calendrier, quelle sera la méthode de la mise en œuvre de cette proposition ?
Alors, vous savez, la gratuité des transports, c'est ce qui m'étonne, c'est de voir la différence qu'il peut y avoir entre la façon dont cette proposition est caricaturée et présentée par un certain nombre de personnes et la façon dont elle est reçue par les Franciliennes et les Franciliens. On a fait tester cette mesure après l'avoir annoncée, mais 2 ou 3 mois après, hein, pas immédiatement. On a fait tester cette mesure lors d'un sondage. Il est apparu que plus de 75% des Franciliens, qu'ils soient à Paris, qu'ils soient en Petite Couronne ou qu'ils soient en Grande Couronne, plus de 75% des Franciliennes et des Franciliens étaient pour cette mesure de la gratuité. Et après, il y a ce dont je me rends compte dans les dizaines et des dizaines de déplacements que j'ai déjà faits et des rencontres que j'ai déjà faites, des milliers de Franciliennes et de Franciliens sur l'ensemble de l'Île-de-France, que j'ai rencontrés, avec lesquels j'ai parlé, avec lesquels j'ai été en contact, et qui, quand on parle de la gratuité, soit me disent « mais c'est génial, évidemment qu'il faut le faire », soit me disent « ce serait bien, mais comment allez-vous faire ?» Mais je n'ai pas rencontré grand monde qui m'ait dit « c'est complètement nul votre truc ». Vraiment pas, bien sûr. Au contraire, dans des départements comme le Val d'Oise ou comme la Seine-Saint-Denis, ou comme la Seine-et-Marne, je rencontre des jeunes qui savent exactement de quoi il s'agit. Ils savent exactement qu'ils n'ont pas toujours les moyens de payer 350 euros par an pour avoir un pass Navigo. Qui savent que même s'ils ont des réductions, parce qu'ils ont un âge qui leur permet d'avoir des réductions, eh bien le tarif qui leur est imposé est encore quelque chose de trop élevé pour eux, pour leur famille, pour leurs parents. Et la conséquence pour eux, c'est qu'ils sont assignés à résidence. Qu'ils ne peuvent pas sortir de leur ville, qu'ils ne peuvent pas sortir de leur département, alors que le monde est à eux, bien sûr, mais là, ne serait-ce que la région Île-de-France est à eux. Donc déjà, il y a pour moi, avec cette mesure, une volonté de donner du pouvoir d'achat, de redonner du pouvoir d'achat aux familles, et singulièrement aux jeunes, aux mères célibataires, aux pères célibataires qui élèvent leurs enfants, qui ont un seul salaire pour faire vivre la famille, et qui n'ont pas les moyens de payer des passes Navigo à leurs enfants. C'est un moyen de redonner du pouvoir d'achat aux jeunes adultes, aux jeunes qui travaillent, aux jeunes qui cherchent un emploi. Évidemment, c'est une question de justice sociale, puisque quand je vous disais que ces gens sont assignés à résidence, eh bien, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent partout en Île-de-France, chez eux, et légitimes à se déplacer. Et puis, c'est une réponse face à l'urgence climatique, parce qu'évidemment, on sait très bien qu'il nous faut changer nos modes de déplacement, changer nos mobilités et transformer nos modes de vie. Sur la question du pouvoir d'achat, vous savez, quand je vais en Seine-Saint-Denis ou dans le Val d'Oise, très franchement, je ne rencontre que des jeunes qui me supplient de mettre en place cette gratuité des transports. Et nous, ce qu'on propose, on sait très bien qu'on ne pourra pas là, en un claquement de doigts et du jour au lendemain, passer à la gratuité des transports. Le coût de la gratuité des transports en Île-de-France, ce serait entre 2,5 milliards et 3,5 milliards d'euros par an. On ne pourra pas faire ça en une seule fois. En revanche, ce qu'on propose, annoncé dès le 1er septembre 2021 que les transports en commun soient gratuits pour tous les moins de 18 ans sur l'ensemble du territoire de l'Île-de-France et pas seulement à Paris. Et pour les 18-25 ans qui sont étudiants ou demandeurs d'emploi. Ensuite, l'année prochaine, en 2022, on va passer à ajouter à ces personnes qui bénéficieront de la gratuité des transports, en 2022, on va ajouter les bénéficiaires des minima sociaux et les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, les personnes âgées qui ont la carte améthyste ou les personnes en situation de handicap. En 2023, on prévoit de l'étendre aux demandeurs d'emploi sans condition de ressources. En 2024, pour tous, mais pas tous les jours, pour tous les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires. Et ensuite, on se donne le reste du mandat pour arriver à ce que la gratuité soit là pour tous. Je vous réponds très rapidement parce que je sais que vous allez me poser la question, mais comment vous allez le financer? Premièrement, on va le financer par les coûts évités. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'accidentologie liée à la voiture individuelle en Île-de-France coûte 2 milliards d'euros aux Franciliens chaque année. L'atteinte à la biodiversité produite par les émissions de gaz à effet de serre de la circulation automobile, c'est 4 milliards d'euros qui reposent sur les finances des Franciliennes et des Franciliens. Imaginez déjà qu'une petite part de tous ces milliards qui sont imposés à la collectivité chaque année par la gratuité de la route, parce que la personne ne se pose la question de savoir si la route est gratuite ou pas, eh bien tous ces milliards-là, quand même, si on prend une petite part de la circulation automobile individuelle et qu'on la déplace sur du transport en commun, eh bien déjà là, on aura des sources de revenus pour la collectivité. Nous allons organiser rapidement des assises de la fiscalité régionale. La loi climat, elle n'est pas très satisfaisante. La loi climat que le Parlement est en train d'entériner, elle n'est pas très satisfaisante, mais elle a au moins un article, l'article 32, qui nous intéresse particulièrement, qui permet aux collectivités régionales de déterminer elles-mêmes leur fiscalité écologique. Ça veut dire que les collectivités régionales et donc une région auront le droit, ce sera inscrit dans la loi, de déterminer une fiscalité écologique et nous voulons pouvoir taxer les modes de transport les plus polluants. Nous, ce que nous voulons, c'est des transports gratuits, mais aussi plus de télétravail quand on peut, et une généralisation. Aujourd'hui, avec le Covid, on se rend compte que c'est possible. Une généralisation dans les entreprises pour les emplois télétravaillables d'une à deux journées de télétravail par semaine, mais aussi organiser la multimodalité, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à vélo et de déposer son vélo de façon sécurisée à la gare.
Dernière question, Audrey oui. Pulvar. Si vous êtes élue, quelle présidente de région serez-vous?
Je serai une présidente de région qui prendra largement en compte et qui s'appuiera sur le génie citoyen. Ce que j'appelle le génie citoyen, c'est la capacité des citoyennes et des citoyens à s'organiser, en plus du fait qu'ils élisent des représentants, à s'organiser et à proposer des solutions pour améliorer leur vie quotidienne. C'est la démocratie participative, c'est la participation citoyenne. Je porte dans mes propositions la proposition d'une assemblée citoyenne du long terme, qui serait une instance indépendante de la région, composée de citoyennes et de citoyennes tirées au sort, et qui aurait pour mission avec les élus, co-construire la politique de la région sur les grandes décisions structurelles pour vérifier que ces grandes décisions sont compatibles avec les intérêts de la jeunesse et les intérêts du long terme. Tout ça, bien sûr, dans la perspective du réchauffement climatique. Moi, vous savez, je suis une citoyenne de la société civile. Je ne suis pas une candidate d'un parti politique. Et cette dimension d'engagement, moi, je suis une citoyenne engagée, et cette dimension d'engagement des citoyens, je pense que ça peut produire des effets extrêmement positifs sur la façon dont les élus mènent leur politique. Et je voudrais vraiment que les Franciliennes et les Franciliens se sentent étroitement associés à la décision politique.
Merci Audrey Pulvar. Je rappelle que vous êtes candidate d'Île-de-France en commun aux élections régionales. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.